Francky Miatoile, là, bonjour.
Bonjour, madame.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de la campagne Finish the Job et quelle est l'implication de la RDC dans le cadre de cette campagne?
La campagne Finish the Job a été initiée par la campagne internationale pour interdire les mines, ICBL en sigle, pour en fait interpeller les États partis à la Convention d'Ottawa de mettre toutes les batteries en marche pour pouvoir terminer le travail dans le cadre de l'action contre les mines antipersonnelles. Pourquoi Finish the Job? Pourquoi terminer le travail? Parce que justement, la Convention d'Ottawa est entrée en vigueur le 1er mars 1999. Nous sommes en train de célébrer la 17e année depuis que cet instrument juridique international est entré en vigueur. L'ICBL voudrait donc rappeler aux États que la lutte anti-mine ne doit pas être une lutte sans fin. Il faut tout faire pour que, un, toutes les zones qui sont contaminées par les mines antipersonnelles puissent être dépolluées dans le respect des délais. Deux, toutes les victimes de mines antipersonnelles puissent être prises en charge en termes de réadaptation physique, en termes d'insertion économique, en termes d'appui psychologique, mais également en termes de réintégration socio-économique. Et trois, tous les stocks de mines antipersonnelles doivent être détruits aussi dans le respect des délais. Pour les cas de la République démocratique du Congo, il faut noter que la RDC était censée terminer la dépollution de toutes les zones contaminées en 2012. Elle n'a pas pu le faire et elle a introduit une demande d'extension et on lui a accordé l'extension jusqu'en 2021 pour terminer le travail de dépollution. Donc nous avons organisé cette conférence pour pouvoir rappeler aux autorités congolaises leurs obligations afin qu'ils puissent faire le nécessaire de manière à ce que d'ici 2021, la RDC puisse être déclarée libre des mines antipersonnelles.
Et qu'est-ce qui a empêché la RDC d'atteindre cet objectif-là dans le premier délai lui accordé?
Il y a eu plusieurs raisons parmi lesquelles je voulais mettre l'accent sur deux raisons fondamentales. La première, c'est l'immensité du pays. Et donc, il est vraiment extrêmement difficile que le travail de dépollution des zones contaminées puisse être fait et achevé en l'espace de 10 ans. Deuxième raison, c'est le fait que le pays a eu à faire face à une situation sécuritaire qui ne lui a pas été favorable. On a connu des guerres, on a connu des rébellions. Et le pays, au terme de la Convention, n'est redevable que pour les zones qui sont sous son contrôle. Or, une bonne partie du territoire n'avait pas été toujours sous le contrôle du gouvernement congolais, ce qui a justifié que les pays ne puissent pas être complètement dépollués dans les délais.
Il nous reste 4 ans, si je ne m'abuse, pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que ce qui n'a pas pu être accompli en 10 ans pourront l'être en 4 ans?
S'il n'y aura pas des impondérables, le rythme actuel du travail est tel que s'il continue, tel qu'il l'est maintenant, il y a de fortes chances que la RDC puisse devenir libre des mines d'ici l'an 2021. Mais il faudra que se dote d'un nouveau plan stratégique de lutte contre les mines qui va couvrir la période 2017 à 2021.
Ce plan stratégique existe déjà ou est en cours d'élaboration?
Il y a un plan stratégique en cours, mais qui est en train de tomber en désuétude d'ici 2016 ici. Donc il faudra un autre plan stratégique qui est en cours d'élaboration, mais il faut l'appui de tous les partenaires, n'est-ce pas, financiers et techniques de la RDC pour l'accompagner de l'élaboration de ces nouveaux plans stratégiques.
Mis à part le plan stratégique, qu'est-ce qui est fait concrètement pour que la RDC, à l'horizon 2021, soit totalement libérée des mines?
Concrètement, il y a NPA qui est en train de renforcer les capacités, donc Norwegian People Aid, qui est une ONG norvégienne, qui est en train de renforcer les capacités du centre, lesquels jouent le rôle de l'autorité nationale de régulation de l'action contre les mines antipersonnelles et beaucoup d'autres opérateurs comme MAG, dans Mine Advisory Group, comme Norwegian People Aid et bien comme Handicap International qui est revenu, qui sont en train de mener les opérations de pollution des zones contaminées sur le terrain. Il y a des ONG locales comme SILAM, comme AFRILAM qui font l'éducation des populations au risque des mines. Donc en attendant que nous ayons un plan, mais le travail continue. Et si le travail continue à ce rythme et qu'il n'y ait pas d'autres impondérables, il y a de fortes chances que la RDC devienne libre des mines d'ici l'an 2020.
Les États membres de la Convention d'Ottawa ont parmi leurs engagements l'assistance aux victimes des mines. Combien on peut estimer ces victimes en RDC aujourd'hui et qu'est-ce qui est fait pour leur prise en charge?
Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2512 victimes des mines. Et donc la RDC figure parmi les États les plus affectés, hein, qui contient un nombre important de victimes des mines. Il y a 2-3 ans, il y avait un certain nombre de projets qui avaient été mis en œuvre pour identifier les victimes des mines et évaluer leurs besoins, pour pouvoir assurer leur insertion économique. D'autres opérateurs, comme la campagne pour interdire les mines, met en œuvre des projets pour constituer des groupes d'entraide ou des groupes de soutien par les pères des victimes des mines ou encore des projets d'accompagnement social des personnes des victimes des mines. Mais c'est des efforts qui sont menés de façon pratiquement individuelle par des organisations. Et aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il n'y a plus de réunions de coordination à l'assistance aux victimes des mines. Ça, c'est une faiblesse qu'il faut corriger. Et aussi, des actions vraiment d'envergure pour pouvoir assister les victimes dans le respect des 6 piliers ne sont plus mises en œuvre.
Francky Miatoala, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.